Attention, vous écoutez un programme audioactif.
Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Parcours en Musique.
Et on va parler musique, mais je pense pas que, avec David Christoffel ce soir.
Bonjour.
Bonjour, ça va ?
Ça va bien.
Ouais. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour moi de vraiment bien cerner, parce que c'est pas du tout la musique que je connais, mais ça m'a beaucoup intéressé justement de découvrir tous les aspects de tes productions. Et on va commencer évidemment par ta formation, qui est donc de docteur en musicologie.
Oui.
Et par quoi justement t'es arrivé à ce, d'une part, à ce champ d'études,
oui,
et à ce niveau surtout, parce que moi, ça, docteur en musicologie, ça me paraît très très impressionnant.
En fait, il y a une suite de bifurcations, c'est-à-dire que j'étais plus ou moins programmé pour faire des sciences, enfin surtout des maths. J'adorais les maths et il se trouve que j'étais au lycée pas bon en physique et par conséquent je pouvais pas faire des maths autant que j'en avais l'appétit.
Ouais.
Si bien que j'ai dû m'orienter après le bac vers autre chose et j'ai découvert avec grande passion la philo en terminale. Et donc j'ai fait de la philo à l'université de Nantes. Et puis il se trouve que j'ai eu une espèce d'accident de diplomatique au moment de soutenir ma maîtrise, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore les masters. J'ai divisé mon jury à un point tel que j'ai eu une note qui m'empêchait de continuer les études.
Ah,
c'est-à-dire que je n'avais même pas de mention à ma maîtrise de philo. Donc en fait, je ne pouvais pas faire de DEA ou même de thèse en philo. J'étais comme stoppé par ça. Et en même temps, j'avais déjà commencé à faire des opéras parlés.
Oui.
Donc à mettre ensemble de la poésie contemporaine que je découvrais tout juste et puis de la musique essentiellement baroque que je produisais, donc je mettais ça ensemble. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Christophe Desoulières qui avait repéré ça avec un intérêt et tout ça, et qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu théoriserais pas ce rapport que t'organises entre poésie et musique. Et au même moment, j'étais en colocation dans un grand appart dans le centre de Nantes où il y avait un piano quart de queue qui est pas du tout mon instrument de base, si bien que je suis allé dans le magasin de musique du coin en disant, est-ce que vous auriez pas des partitions un peu faciles pour le piano. Et plutôt que me demander me donner des méthodes, le marchand de musique m'a donné des partitions d'Eric Satie sur lesquelles il y avait des petites mentions verbales curieuses qui se réduisaient pas à des indications de mouvement ou de caractère, qui étaient du genre plutôt munissez-vous de clairvoyance ou bien ouvrez la tête, voilà, c'est des emblématiques. Et je me suis dit pourquoi pas faire un travail de mémoire de DEA sur cette question-là, puisque Christophe Desoulières pouvait me mettre en liaison avec une chercheuse de l'EHESS qui s'appelait Françoise Escal et qui justement travailler sur cette idée qu'il pourrait y avoir du paratexte en musique, c'est-à-dire des espaces de textes qui ne sont pas donnés comme le cœur de ce qui est publié, mais
comme
qui participent quand même,
quand
même du texte. Et donc, après, une fois que le DEA avait été fait, il y avait une envie d'approfondir encore plus la question qui avait été levée comme ça, et c'est comme ça que je me suis engagé dans une thèse en musicologie qui m'a pris énormément de temps à faire, parce que je faisais déjà de la radio beaucoup en même temps, et ça m'a mis 9 ans.
D'accord. Et donc, bon, y a un point que tu as abordé qui est très important, où je voulais qu'on s'attarde un petit peu, c'est justement la liaison entre la musique et la poésie, enfin, ou le parler. Et je voudrais bien que tu expliques un petit peu plus comment ça t'est venu, cette envie, parce que bon, on y reviendra un petit peu plus tard et aussi on diffusera des extraits. Mais c'est un. Comment dire, pour moi, ça a été une vraie découverte musicale dans le sens où on pourrait se dire, voilà, de la poésie, réciter un poème, etc., etc., mais on n'est pas du tout dans ce registre-là, où on est plus dans le rythme des mots, le rythme des syllabes, et c'est vraiment, moi, ce travail-là qui m'a vraiment intéressé. Donc, comment est-ce que, de ton point de vue, c'est arrivé, cette...
C'est arrivé parce que, comme en fait souvent dans ma vie, j'essaye de rassembler des activités qui sont très différentes que je peux avoir dans une pratique hybride qui arrive à les rassembler. Il se trouve que quand j'étais adolescent, j'avais commencé à faire de la radio sur une radio associative où il pouvait m'arriver de donner la météo sur un instru et donc d'être dans une position où je projette la parole dans un rythme qui finit par retirer à la parole la nécessité de signifier quelque chose de très consistant, ce qui, quand on donne la météo, est finalement assez cohérent. Et d'ailleurs, depuis que j'ai documenté la question, ça fait très longtemps que la météo est comme ça, tirée vers quelque chose d'un peu d'une poésie sans signification. Dès les années 20, il y avait de ça. Et puis, en même temps, je faisais de la musique dans l'école de musique de la ville où j'étais à Luçon. Et il y avait quelque chose d'un peu bizarre quand tout le plaisir que je prenais à jouer de la musique était quand même un petit peu tendu par le fait que je puisse rien formuler de toutes les pensées qui me traversaient en jouant de la musique.
D'accord.
Et pour moi, il y avait une sorte de tension entre l'acte de jouer de la musique et le fait de penser à des choses en même temps. Et j'arrivais pas à me résoudre que cette tension elle-même, en tant que tension, soit pas exprimable.
D'accord.
Et donc, quand j'ai découvert quelques années plus tard des poètes contemporains qui se laissaient traverser dans leur rapport à la parole par toutes les tensions qui peuvent habiter la pensée. Je pense à des poètes comme Christophe Tarkos ou Philippe Beck, qui était le prof que j'avais à la fac, qui m'a comme ça ouvert à la poésie contemporaine. J'ai aussi découvert un livre qui s'appelle Un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michaud. Et quand je l'ai ouvert, il m'a comme sauté à la gorge la gorge du chroniqueur que j'étais en même temps à Radio Nantes. Et donc tout de suite je l'ai projeté dans un micro, j'ai commencé à faire des montages et donc je me suis dit il faut que j'arrive pourquoi pas à jouer de la flûte à bec en même temps. Et donc j'ai fait un premier opéra parlé qui s'appelle Le Déchante Merdier où je mets ce montage de ma voix superposée avec elle-même de tout le merdier journalistique que le livre de Jacques-Henri Michaud essayait de figurer par ce livre et en même temps je jouais des suites pour flûte à bec de Joseph Baudinois Mortier que j'étais en train de travailler à la flûte.
D'accord.
Et cette confrontation, pour moi, elle arrivait à ramasser les deux vies que j'avais en même temps, de jouer des partitions baroques à la flûte et de faire de la radio.
D'accord. Et donc, la radio, ça, t'as continué, on va dire, tu continues toujours.
Oui, j'en fais toujours.
Oui, t'en fais toujours.
Depuis 20 ans.
Ouais, on y reviendra un petit peu plus tard, puisqu'il y a...
Depuis 30 ans.
Depuis 30 ans.
Ouais, depuis 20 ans professionnellement, mais depuis 30 ans, en fait.
30 ans au début en associatif.
Ouais,
donc,
ouais.
Tu produis énormément de contenu et je savais pas trop par quoi commencer. Et je voulais qu'on parle de ton livre, La musique vous veut du bien, qui est paru en 2018 et qui vise, si j'ai bien compris, à... entre guillemets, médicaliser un petit peu l'utilisation de la musique, non ?
C'est plutôt au contraire, essayer de poser la question de comment a-t-on pu en arriver à ce degré de médicalisation de l'usage de la musique. Et je vise pas tant la musicothérapie, qui est une pratique thérapeutique qui utilise la musique, mais qui l'utilise pas comme un principe actif, qui l'utilise plutôt comme un support.
Comme un support.
Voilà. Et non, je m'inquiète davantage de ce que il y a un discours sur la musique qui est de plus en plus prégnant, qui veut la ramener à quelque chose d'utilitaire, qui peut servir un truc un peu hygiéniste ou de bien-être, qui est très présent. Et c'est vrai qu'il y a le moins qu'on puisse dire, une espèce d'offensive de la psychologie positive, du développement personnel, qui vient phagocyter le rapport qu'on a à la musique. Donc, il faudrait que, quand vous écoutez tel mouvement lent, un concerto de Mozart, vous soyez détendu et ainsi de suite. Et moi, c'est tellement pas le rapport que j'ai avec les œuvres que je trouvais qu'il y avait un hiatus qu'il fallait problématiser. Et donc, ma stratégie, ça a été d'aller chercher tous les discours un peu farfelus qui prêtent des vertus thérapeutiques à la musique dans l'histoire, et puis d'en faire une espèce de collection plutôt joyeuse.
Et de les déconstruire,
quand même assez critique. Oui, de les construire de fait, de constater que c'est un peu délirant, souvent.
Donc justement, le rapport à la musique, il est forcément individuel et il n'est pas, on va dire, voilà, comme tu le disais, quand vous écoutez ça, vous allez ressentir ça. On est dans un ressenti, de toute façon, individuel. Moi, de mon point de vue, ça c'est mon point de vue.
Depuis qu'on se met des casques dans les oreilles pour l'écouter, forcément, on est dans un truc individuel. Ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, nous, dans la société dans laquelle on vit, de fait... Certes, il y a quelque chose d'individuel, mais ça suffit pas de dire que l'écoute est individuelle, donc qu'on peut pas dire qu'elle a des bienfaits qui seraient universalisables, parce que ce discours un peu qui essaye de mettre la musique à la botte du développement personnel, c'est aussi un discours hyper individualiste. C'est-à-dire qu'on va vous dire cette musique va être une sorte de bulle de bien-être qui va faire que vous allez dans votre voiture tout seul pouvoir ressentir un grand bien-être, même si vous êtes dans les embouteillages. Enfin, ce serait comme ça une espèce d'antidote à tout et à une vie hyper individualiste, mais quand même heureuse.
On peut être heureux plein de manières possibles.
Oui, mais on peut aussi, et c'est ça qui est formidable avec la musique, avoir plusieurs émotions opposées en même temps. Mmh. Et ça, c'est pas du tout prévu par la psychologie positive. Alors que c'est quand même ce qui est intéressant dans ce que peut nous faire vivre une grande symphonie de Bruckner ou je sais pas, des quatuors à cordes de Shostakovich, qui sont des œuvres qui vont chercher quelque chose en nous, qui est pas forcément heureux, mais qu'il est intéressant de remuer quand même.
Ouais. C'est ça que j'arrive, entre guillemets, pas à comprendre. Enfin, moi, je suis néophyte en musique classique et bon, tu as proposé une œuvre, une symphonie. Mm-hmm. Et justement, je suis passé par énormément de palettes d'émotions en l'écoutant. Et c'est là où je me rends compte que je suis totalement néophyte. Et ça m'a ramené énormément d'images de films.
Ouais.
Et on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est ça qui est déroutant pour quelqu'un qui connaît pas et qui découvre entre guillemets ces grandes œuvres.
Ouais, ce qui est bizarre, c'est que tu mets le fait que tu connais pas en préalable de ton écoute. Moi, je pense que tout ce qui se découvre, c'est à partir du moment où on en fait une expérience à soi. C'est ce moment de bascule en disant, ben voilà, ce que j'ai vécu avec cette œuvre, mm-hmm. c'est ce qu'il y a d'important dans cette œuvre. Et quand tu arrives à faire cette jonction-là, t'es débarrassé de savoir si tu t'y connais ou pas. Enfin, parce que ça veut dire quoi, s'y connaître, tu vois.
Voilà,
la symphonie dont tu parles, je serais incapable de te donner ne serait-ce que sa tonalité. C'est-à-dire que j'ai jamais essayé d'avoir envers elle un rapport de musicologue au sens standard du musicologue. Parce D'accord. que moi, je plaide pour un sens hyper élargi de ce mot.
Mmh. D'accord. Donc, en fait, la musique, c'est ce qu'on en fait plus que ce qu'on veut nous en
Peut-être
projeter.
Pas plus, mais au moins autant.
Au moins autant, ouais.
Ouais.
Je voudrais qu'on parle surtout d'un projet que moi j'ai découvert aussi assez récemment. C'est Méta Classique, qui est diffusé aussi sur beaucoup de radios locales.
C'est une émission de radio qui est aussi un podcast, plutôt dans ce sens-là. Mais
enfin, c'est produit dans quel cadre justement?
Alors ça, c'est une initiative complètement indépendante qui essaye de coaguler pour les résoudre un certain nombre de frustrations que j'avais dans ma vie de professionnel de radio.
D'accord.
À savoir de renouer avec la périodicité, parce que je suis encore pris dans des collaborations radiophoniques qui ne me permettaient pas d'avoir un programme régulier. Mmh. Et j'avais besoin de cette régularité pour me maintenir dans un rythme de pensée de la radio dans lequel je voulais à la fois faire de la création radiophonique dans le sens de mélanger certains genres et des expériences pédagogiques que je peux faire par la radio sur la musique classique, et d'autre part une autre frustration que j'avais toujours pas réussi, alors que c'est une idée que j'ai depuis vraiment très longtemps, d'arriver sur un même enjeu qui n'est pas forcément musical, à croiser une parole liée à la musique et une parole extra musicale, et de parier que leur rencontre va nous permettre d'entendre l'œuvre par un nombre de points d'accroche démultipliés. Donc par exemple, je sais pas, il y a un épisode qui s'appelle Racialisé où il y a Stéphane Le Teuret, qui est spécialiste de Saint-Saëns et qui raconte comment la question raciale traverse l'œuvre de Saint-Saëns, et en parallèle il y a un entretien croisé avec Claude-Olivier Doron, qui lui a fait une histoire de la race comme concept scientifique au XIXe siècle, et l'aller et venue entre leurs deux discours, moi, me semble comme ça permettre plus d'entrée dans l'écoute et la recontextualisation historique de ces œuvres que pour certaines on connaît par cœur, mais qu'on n'a pas l'habitude d'écouter avec des enjeux comme par exemple celui de la race.
Et surtout des explications, comme tu le disais, croisées. L'épisode qui m'a vraiment plu, c'est le premier. Puisque justement,
attaqué,
parce que vous expliquez, alors je sais plus qui est exactement.
Il y a Clément Maotakatch, le chef d'orchestre, enfin, il a plusieurs casquettes, mais c'est surtout en tant que chef d'orchestre qu'il est là, et Gilbert Nounot, qui est compositeur, compositeur surtout de musique électroacoustique, qui donne un rapport à la question de l'entrée dans le son, à l'attaque, qui est bien spécifique. Et de fait, avec cet épisode, là, on a vraiment quelque chose qui est à l'image de ce que je veux faire de cette émission, c'est-à-dire de prendre un paramètre de l'anatomie de la musique qui par conséquent traverse tous les répertoires, qu'on aille de la musique la plus ancienne à la plus contemporaine, en passant par la musique populaire enregistrée, et d'arriver à la problématiser avec des rapports au discours qui multiplient les entrées à nouveau. Donc Clément Mahotakatch en témoigne en tant que chef d'orchestre, mais aussi prend en charge tout un passage sur Beethoven où l'attaque devient une espèce de concept opérant de composition. Là où Gilbert Nounot arrive à faire un pendant entre la note, l'attaque de la note à l'époque au XVIIIe siècle dans la musique baroque et l'attaque de la note avec tous les paliers qui sont possibles dans la musique électroacoustique.
C'est ça qui était, enfin qui moi m'a vraiment intéressé, même si entre guillemets je suis pas client de grosses théorisations, etc., etc. Mais voilà, c'est l'explication de comment attaquer un opéra, donc comment on démarre, comment on dit à tout le monde de se taire dans la salle, et comment aussi on attaque différentes notes sur les instruments, etc. Et cette explication, elle était vraiment, enfin, au niveau de l'illustration, c'est voilà, c'est illustré musicalement, donc on comprend très rapidement. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu dans l'idée. Alors, j'ai pas écouté encore tous les épisodes, puisqu'on va le rappeler, mais il y en a un par semaine. Depuis plus d'un an. Donc, il y a 54 épisodes qui sont parus, je crois, à ce jour.
55
ouais. même. Et ça dure une heure. Mais pour tous ceux qui sont intéressés par la musique classique, mais vraiment par, comme je vous le dis, par la mécanique, c'est-à-dire et l'idée de prendre un verbe et de l'utiliser dans...
Un verbe de tous les jours.
Ouais, un verbe de tous les jours. Typiquement, attaquer, pour un premier épisode de podcast, toi aussi, t'attaquais ton t'attaquais ton émission à ce moment-là.
C'était autoréférencié.
Et, ça, oui, c'était autoréférencié et c'était vraiment bien amené, puisque vous ameniez toutes les attaques, donc l'attaque instrumentale et l'attaque d'une œuvre. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant
aussi de travailler avec les différentes échelles d'une même question, c'est-à-dire que de faire résonner un verbe à différents niveaux. Ça, c'est quelque chose qui est revenu dans pas mal d'épisodes. Oui.
Et donc, il va y avoir des enregistrements publics qui vont se passer.
Il y en a déjà eu un au mois de janvier qui a été mis en ligne il y a quelques jours. C'est Rêver. Ouais. Donc là, pareil, c'est-à-dire il y a une historienne des rêves à qui j'ai dû répéter plusieurs fois, mais vous inquiétez pas si vous connaissez rien à la musique, c'est pas pour ça que je vous invite. Et elle a fini, Jacqueline Carrois, par venir, ce qui était vraiment pour moi vraiment important que ce soit elle, parce que sinon c'était pas possible de faire cette émission pour moi sans cette historienne du rêve. Il y avait Elisabeth Brisson qu'on connaît comme spécialiste de Beethoven, mais qui vient de faire un livre sur Alban Berg, où il est beaucoup de questions d'onirisme en musique. Et il y avait un philosophe, Santiago Espinoza, qui, lui, conteste l'idée que la musique exprime quelque chose et ce qui permettait de faire un flottement précisément sur la question du rêve, puisque si... la musique ne signifie peut-être rien, alors c'est à cet endroit-là qu'elle peut être comparable au rêve, qui est toujours potentiellement non significatif.
C'est à écouter, donc c'était l'épisode 55,
je crois, 55, justement, il me semble. Oui, c'est celui qui est paru le 5 février.
Ouais. Et donc, le dernier point que je souhaitais aborder, c'était Radio Tout le Monde.
Oui.
Oui. Où ça, c'est écoutable en ligne.
Ouais, sur le label Super Moyen et Disque, qui est disponible sur Bandcamp. En fait, c'est... une espèce de bonbonnière cachée dans ma production radiophonique Radio Tout le Monde, c'est-à-dire ça ramasse un petit peu tout ce que je peux pas diffuser à la radio et qui pourtant est extrêmement important pour moi de faire. Donc il y a des micro poèmes mis en musique, il y a des montages de voix entre elles, il y a toujours quand même l'idée de d'élargir le champ de ce qu'on peut entendre par la radio et de ce qu'on peut faire par la radio à travers des expériences qui sont extrêmement variées.
C'est varié, oui, c'est très varié, parce que ça va de la conversation de tous les jours mise en musique mais découpée,
des montages de méthodes de langue qui deviennent complètement fous, on dirait du Beckett, mais en fait c'est juste des gens qui essayent d'apprendre le français à des gens qui ne parlent pas et qui se produisent dans des scénettes qui sont un peu improbables du point de vue dramatique. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a aussi un hommage à Paul Castan que je passe de temps en temps à des étudiants quand je vais parler de la radio, parce que Paul Castan, c'est le premier dans les années 1930 à s'être appelé metteur en onde, c'est-à-dire l'équivalent à la radio de ce qu'est le metteur en scène au théâtre. Et il avait un discours pour décrire un peu ce qu'est la mise en onde, qui décrivait de par exemple, vous êtes au théâtre, il y a des cloches au loin, de la brise, un arbre, vous voyez le soleil qui resplendit sur deux amants en train de se raconter une scène d'amour, et il dit, pour moi à la radio, comme j'ai pas le soleil, comme j'ai pas le décor, je suis obligé d'avoir les cloches à la place, la brise, le rossignol, et puis à la place du filier de lumière, je mets la sonate au clair de lune de Beethoven. Et en fait, sa description est tellement précise que ça m'a donné envie de reconstituer. Mmh. Et donc, je l'ai reconstitué et puis j'ai remplacé la scène d'amour par une sorte de prélèvement dans Gossip Girl et ça donne quelque chose de vraiment très, très très bien et ça aide à écouter Beethoven.
Ouais. Et en fait, dans un des épisodes, alors je crois que c'était sur France Musique, on te présentait comme un architecte sonore. Est-ce que c'est une définition qui te convient plus que poète-compositeur ou compositeur-poète ?
Il se trouve que sur mon compte, en fonction des occasions, circulent des appellations très variées que je laisse planer sans chercher à les arbitrer parce que je crois que moi-même dirais-je que je suis ça ou ça, ça aurait pas forcément grande audience. Donc j'ai un peu renoncé à m'enfermer et puis plutôt avec bonheur à m'enfermer dans une seule appellation. Et puis ça me plaît bien d'être, je sais pas, créateur sonore de 8h à 10h du matin, d'être architecte du son ou prof de 10h à midi, d'être
multi-étiquette,
clarinettiste de 12h30 à 13h. Oui. Enfin, c'est pas une question d'étiquette, c'est une question de traverser des façons de vivre qui peuvent être différentes de jour en jour.
Et justement, tu travailles avec la Philharmonie en ce moment pour des podcasts
Oui, je produis plusieurs petites séries de podcasts. La plus grande étant Mélomania. Mélomaniac, c'est l'idée de créer des sortes de contre-récits de ce qu'est l'écoute musicale, parce que je suis toujours embêté que le discours des mélomanes soit lui-même formaté, et que le discours même de l'amateur de musique soit réduit à ses meilleurs goûts, à ce qu'il aime par-dessus tout et tout ça. Donc j'ai collectionné un certain nombre de témoignages qui développent des rapports tellement personnalisés à la musique qu'ils en deviennent alternatifs par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Donc le plus récent, c'est quelqu'un qui aime écouter Beethoven rembobiné, c'est-à-dire avec la fonction reverse, ou qui aime superposer des musiques parce qu'il écoute plusieurs vidéos musicales YouTube en même temps. Il y a quelqu'un qui voudrait être mis en prison pour pouvoir apprendre le violon sans le violon parce qu'il trouve que le contact vraiment abstrait avec le geste instrumental serait plus instructif que le contact avec un vrai instrument.
C'est fini.
Pas loin de la fiction, mais c'est aussi une façon.
On peut lui expliquer qu'on n'est pas obligé d'aller en prison pour apprendre.
Il préfère vraiment être en prison.
Ah ouais.
Bah, il pense que c'est le meilleur l'enfermement le plus robuste possible.
Le plus robuste, oui.
Ouais, après, ça pose d'autres problèmes qu'il a peut-être pas évalué. Je sais pas.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, des projets justement ? Est-ce que tu as des projets pour les mois
Oui, j'ai un gros projet avec Alessandro Bosetti, qui est un créateur radiophonique dont j'aime vraiment énormément le travail. Et ensemble, on va faire un oratorio pour le prochain festival d'automne à l'église Saint-Eustache. Là, c'est l'exemple d'un travail où c'est le festival qui nous a proposé l'église Saint-Eustache, ce qui en fait était très bizarre au sens que on avait le désir de faire quelque chose tous les deux, et lui comme moi, on est dans des esthétiques sonores qui sont beaucoup travaillées avec l'imaginaire du studio de radio, et par conséquent qui sont dans des esthétiques sonores assez mates, et de nous trouver dans un lieu qui acoustiquement est réverbérant pose un nombre de questions qui est tellement en antagonisme par rapport à ce qu'on fait habituellement que du coup ça devient intéressant et que on va le faire. Ce sera début octobre.
Et du coup, est-ce que ça, c'était une question qui viendra un petit peu plus tard aussi, comment est-ce que tu prépares ce type d'événement ? Est-ce qu'il y a besoin de répéter énormément avec ceux qui vont dire les textes, par exemple, ou justement préparer les onomatopées, etc., etc. Est-ce qu'il y a besoin d'aller beaucoup sur le lieu, justement, pour étudier la réponse acoustique du lieu ?
Alors, on va faire une sorte de testing acoustique 6 mois avant, c'est-à-dire au mois de mars ou avril. Et ce qu'on a pris comme décision ensemble, c'est d'avoir une distribution bipartite avec 3 voix féminines. Et en fait, le testing acoustique, on va le faire que avec les voix.
D'accord.
Et on va les pré-enregistrer, mais dans un lieu mat, parce qu'on va se resservir ensuite de leurs enregistrements pour les réinjecter dans la partie, on peut dire électronique, mais en fait, différée de leur...
Ouais, playback.
Voilà, mais par contre, les répétitions pures et dures, elles seront que les 3 jours avant.
Ouais, juste les 3 jours avant, vraiment pour la mise en place, les derniers détails.
Voilà, ouais.
D'accord, je crois que c'est clair.
Ouais.
On va passer à tes choix musicaux, du coup. Alors, on commence avec, évidemment, Eric Satie, t'en avais parlé.
Oui.
T'as choisi de parler de Vexation. interprété par Nicolas Horvat. Oui. Horvat, c'est ça.
Oui, parce que en plus, il se trouve qu'on travaille aussi ensemble avec Nicolas Horvat. On a fait un opéra de 4 heures à l'opéra de Rouen il y a 2 ans, justement avec Vexation. C'est le premier pianiste à ma connaissance qui a joué le jeu de jouer la partition 840 fois de suite, comme c'est indiqué sur la partition.
D'accord.
Parce qu'en fait, dans les années 60, c'est pour ça que j'ai choisi pour les années 60, John Cage avait mis en place la performance de jouer effectivement la petite partition d'une page grande comme une carte postale. J'ai vu l'original à Caen, à l'IMEC, et si on le joue 840 fois de suite, comme il y a une coda, si on fait ou pas la reprise, ça a une durée qui peut être évolutif, qui peut aller de 18h à 24h, en gros. Et ce qu'avait fait John Cage, c'était de changer de pianiste toutes les heures. Donc, il avait engagé une douzaine de pianistes.
D'accord.
Qui s'étaient relayés. Mm-hmm. Mais comme Satie, au début de la partition, il écrit « Pour se jouer 840 fois de suite, il faut observer des immobilités sérieuses », on se doute que c'est quand même une seule personne qui doit jouer les 840 fois. Et je crois que Nicolas est le premier à avoir joué le jeu de... à lui tout seul, les jouer 840 fois de suite. Et il en fait des marathons qu'il fait maintenant assez régulièrement, et il a pu constater que les immobilités sérieuses, oui, il faut les observer, il faut notamment jeûner plusieurs jours avant pour pouvoir tenir au piano sans partir.
Oui, moi j'ai vu quand même une prestation de 35 heures solo.
Ah, parce qu'il avait dû sévèrement ralentir le tempo et en plus faire vraiment toutes les reprises.
Je sais pas si c'est sur cette œuvre-là, mais...
Ah, probablement. Ouais. À moins que ce soit l'intégrale Philippe Glass, parce que je crois qu'il a aussi fait l'intégrale Philippe Glass en version marathon comme ça. Peut-être que c'est ça qui a fait 35
heures, c'est énorme quoi. Comment on fait pour jouer au piano?
Faut lui demander, mais en fait, lui, il en fait une expérience de méditation.
Oui,
presque. Enfin,
oui.
Pour lui, c'est vraiment comme une traversée spirituelle.
Ça tient du mystique quoi.
Oui. Ah oui, mais c'est quelqu'un d'assez mystique.
Je ne connais pas. Tu as son numéro
Si tu veux, d'accord, je te le donnerai. Il sera très, très heureux, je pense.
Pour les années 70, tu as choisi de nous parler de Colette Mani.
Alors, on garde son sang-froid ? Aïe, pardon, je vous ai écrasé gros orteil, je suis des bricades d'intervention. Pression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression.
Et de la chanson Répression, mais aussi de toute son œuvre d'une manière globale.
Parce que comme ton podcast s'appelle Mes disques à moi, j'avais pas envie de donner des trucs archi fétiches.
Ouais.
Et il se trouve que Colette Mani, je la connais vraiment pas très bien, et que pour moi c'est une figure un peu étrange, parce que elle est presque dans la forme et le rendu sonore de ce qu'elle fait, un peu tout ce que je rejette, c'est-à-dire la gouaille, c'est-à-dire l'emphase, et ainsi de suite. Mais il y a un truc de brut qui est irrésistible pour moi, c'est-à-dire qui est incontournable et qui est exemplaire. Enfin, et donc elle est à une jonction d'une liberté qui pour moi est c'est incontournable. Et c'est pour ça que je l'ai mise dans la sélection, sans pour autant la connaître énormément. Mais elle est dans une façon, par contre, de lier la musique et la poésie qui me semble hyper intégrée. C'est-à-dire que elle chante dans les lignes vocales d'une nécessité par rapport au texte pour moi, est quasi sans égal au XXe siècle. Enfin, si peut-être, là, tout récemment, c'est le XXIe siècle, j'étais un peu bluffé de la même façon, dans la façon dont Gérard Depardieu chante Barbara en le disant, mais tout en le disant, on reconnaît quand même la mélodie.
Mmh.
Et ça, c'est extrêmement rare qu'on arrive à maintenir le fait qu'on est dans la parole alors qu'on chante à ce point-là.
Mmh.
Moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées par rapport à l'opéra parlé, parce que l'opéra parlé, il est dans une sorte de refus de chanter. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire croire que je chante. Enfin. Et Colette Mani, voilà, elle est à un endroit qui me pipi, on ne l'écoute jamais. Donc, je trouve que ça fait partie de ces figures anti-pop au possible.
Ah bah,
ça me plaît.
Mais ça fait chanson, ça fait quand même très chanson réaliste, on va dire. Mais il y a un côté, comme tu dis, brut. Et moi, je me suis vraiment, en l'écoutant, je me suis vraiment posé la question, comment est-ce qu'elle enregistrait? Est-ce qu'elle enregistrait déjà avec des méthodes, entre guillemets, modernes, c'est-à-dire la musique puis la voix, ou est-ce que c'était enregistré tout en même temps? Ça, je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé.
J'ai l'impression que c'est tout en même temps, mais c'est vrai que je ne suis pas pas beaucoup poser de questions techniques, tellement il y a une espèce d'effet de rapt de comment elle saisit l'expression qui me suffit.
Il y a une urgence quand même très très palpable dans...
Ouais, mais qui n'empêche pas que le texte est d'une précision politique qui suppose une analyse affinée, c'est-à-dire qu'elle ne peut que se reprendre à deux fois sur chacune des idées qu'elle balance pour arriver à ce niveau critique sur de ce qu'elle raconte. Et je pense que là aussi, il y a un point de rencontre entre la précision du contenu et la précision du positionnement quasi lyrique. Mmh. Voilà. Ce qui est rarissime, je crois.
Je connais pas autant que ça pour...
je sais pas, non, mais si, tu connais Léo Ferré. Tu connais,
Léo Ferré, oui.
Et ça sert tous aux mêmes questions. Mano Solo, j'ai failli mettre Mano Solo parce que j'ai beaucoup écouté Mano Solo. Et c'est pareil. Enfin, c'est pas, parce que, en fait, il y a un point de non-résolution dans la gouaille, qui, moi, me saisit. C'est-à-dire que, il n'y a pas d'épanchement alors qu'il y a beaucoup d'expressions.
Oui. Léo Ferré, clairement, je trouve que la musique, elle est en retrait par rapport au chant et au texte.
Oui.
Dans ce qu'il fait. Mano Solo, c'est plus équilibré, je trouve, entre...
Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il va tirer jusqu'à être un point de fébrilité. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut vraiment beaucoup. Ouais, Mano Solo, je l'ai vraiment énormément écouté.
Ouais, il a quand même fait beaucoup d'albums, quand même.
Ouais, je saurais pas dire combien.
Ouais, moi non plus, mais...
Je les avais tous.
Moi, quand j'étais ado,
T'as pas mal écouté aussi,
pas énormément, mais oui, je me suis laissé prendre au jeu, ouais.
Ouais.
Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui... c'est très sincère et quand...
Mais tu vois, justement, il y a aussi ça par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écoute solitaire. Moi, je l'ai beaucoup écouté en voiture, Mano Solo, et j'avais été le voir en concert, et j'étais une fois au concert dans un panel émotionnel qui rencontrait mal en fait ce que je projetais sur ces chansons.
D'accord. Ouais.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un effet de rassemblement dans le concert, et puis surtout il avait une façon d'emporter le public qui était très rassembleuse. Et ça, c'est moi, c'est des choses qui me bloquent un peu par rapport à des moi, ce que dans l'écoute solitaire j'avais pu explorer grâce à ces chansons, j'arrive pas à les retrouver.
En communion avec
un public. Ouais. Ça, c'est ce qui fait que je vais de fait assez peu au concert.
Assez peu au concert.
J'ai un rapport vraiment solitaire à la musique. Mmh.
D'accord. Pour les années 80, on va parler de Kraftwerk avec Radioactivity.
Ouais.
Du coup,
ça, je trouve ça dément parce que, en fait, je crois que Kraftwerk est assez responsable du fait aussi que j'aime Rossini ou que j'aime pas mal les musiques très droites ou très verticales, mais je les aime pour des raisons horizontales. Enfin, y a quelque chose de beaucoup moins robotique que ça dans la musique de Kraftwerk. Enfin, je veux dire que c'est un plaidoyer contre tous les clichés que ça génère, parce que comme c'est très c'est un univers très massif qui s'impose par Kraftwerk, mais qui se déconstruit qui est très friable en même temps quand on se prend au jeu de ce qu'on entend véritablement. Et donc c'est une musique qui me met qui me rend très joyeux, très excité plutôt.
Ouais c'est... alors moi, j'ai connu ça parce que mon père devait avoir Autobahn, je crois.
Oui, donc en train de dire que c'est de la génération de ton père.
Non, mais Kraftwerk, oui, ça a commencé 70.
Ah oui, mais moi, je l'écoutais en retardement.
Dans ces eaux-là... Et ouais, par horizontalité, qu'est-ce que tu entends? Parce qu'en fait, là.
Non, je sais pas.
Non,
pour moi, une musique verticale, c'est une musique très métrique, avec un temps très strié. Et, Et en fait, à travers cette pulsation extrêmement régulière, tous les autres événements que la pulsation vont par conséquent prendre une ampleur, même s'ils sont relativement pauvres en harmonique ou en mélodie, vont prendre une sorte de démesure. Mais c'est ce qui fait aussi mon attrait pour certaines musiques kitsch, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de contention qui fait que... En fait, c'est toute l'esthétique low-tech qui est un peu dans une sorte de bodybuilding, c'est-à-dire on est dans une telle économie de moyens que tout ce qui va se passer va être hyper joyeux parce que tous les effets vont être démesurés tellement ils sont inattendus, tellement le nombre de moyens est restreint.
L'hyper minimalisme amène le moindre événement comme étant une.
Oui, mais c'est du faux minimalisme en l'occurrence parce qu'il y a quand même, enfin c'est généreux quoi, il se passe des choses, ça y va quoi, et ça me fait penser par exemple à Scarlatti Goes Electro. C'est un groupe 8 bits qui reprend du Scarlatti avec des sons de Nintendo.
Là,
c'est le même type de joie, même si c'est un peu plus bourrin que Kraftwerk. Mais,
mais justement, Kraftwerk, ils ont réussi quand même à avoir une attitude artistique très... Je dirais pas pointue, mais avec des choix quand même assez radicaux. Et à arriver à un succès public quand même assez assez énorme pour ça. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi dans ton choix.
Oui.
C'est que on peut être populaire. Enfin, tout le monde connaît Kraftwerk à minimum de nom. Et quand vous jouez, ne serait-ce que Radioactivity, tout le monde connaît. C'est ça qui m'a intéressé dans le choix, c'est que on peut être entre guillemets sur un segment très expérimental et réussir à toucher le grand public.
Moi, c'est quelque chose qui m'est pas apparu quand je l'écoutais beaucoup, parce que moi, j'étais au lycée à Luçon, en Vendée, et j'étais vraiment le seul de tout mon entourage à écouter Kraftwerk. Je sais pas comment j'étais tombé sur ce disque-là, s'il devait y avoir un magasin de disques où j'avais trouvé la pochette étrange et tout ça, mais je pouvais pas le partager. Ouais. C'était un best-of, je crois.
Ouais.
Mais j'avais pas du coup conscience de la popularité du groupe, et j'ai pas plus enquêté que ça dessus. Enfin, parce que ces effets de captation du public sont des choses dont je me tiens assez à distance, donc je regarde pas trop à quel point c'est mainstream avant de l'écouter, sans compter que moi, le mode de consommation que j'en avais en faisait quelque chose d'un peu underground. Parce que je pouvais à peine le passer dans mes premières émissions de radio. Parce que justement, ça répondait pas au côté people auquel, de fait, j'obéissais quand j'étais à la radio. Donc, en fait, ce que j'écoutais chez moi n'était pas exactement ce dont je parlais à la radio. Enfin, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai organisé ou j'ai laissé s'organiser une dissension.
Tu t'es laissé cannibaliser un petit peu.
Oui, parce que ça devait m'amuser, sans doute.
Justement, de découvrir des choses entre guillemets un petit peu plus grand public.
Non, mais il y a aussi que je savais pas quoi en dire. Parce que mettre un tube et il suffit de prendre la presse qui va avec et de la détourner et d'essayer d'en dire autre chose. Donc c'est un peu ce que je faisais. Alors que quoi dire de Kraftwerk? Il n'y avait pas Internet.
Ah bah non.
Donc il n'y avait pas Wikipédia à détourner. et puis je crois que ça m'intéressait finalement pas, parce que je crois que ça, de fait, ça aurait de toute façon gâché quelque chose.
On passe aux années 90 du coup avec Christophe Tarkos.
Barque. Sol. If. Amandier. Cerisier, amande, cerise. Pétale.
Oui, alors là, j'ai un peu triché avec le protocole parce qu'il n'y a pas une discographie dans le sens discographie.
Ouais.
Enfin, il a enregistré une cassette, je crois. Non, parce que Christophe Tarkos, c'est vrai que je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est une rencontre avec une façon de faire de la poésie qui a été vraiment importante pour moi, quoi. Et puis ce rapport à la pensée en train de se faire en même temps que la parole se projette, c'est quelque chose, moi, qui me tient encore. C'est-à-dire, c'est un des seuls poètes que je lisais il y a 25 ans, que je lis encore. Enfin,
fragile.
De façon relativement régulière, sur lequel je travaille. Enfin, j'ai certains projets sur Christophe Tarkos dans les prochains mois.
Il y a des projets sur.
Oui, mais non, je peux pas encore parler. Ah,
d'accord.
Mais sont, ouais.
Bah, parce que justement, là, il y a des choses quand même qui sont rééditées de ce qu'il a produit
oui.
en ce moment. Ouais.
Ah ouais, tout à fait. Il y a le petit bidon qui est paru là récemment,
ouais.
une anthologie de textes par Nathalie Quintane. Et puis on a fait un travail de les écrits poétiques qui étaient parus chez d'autres éditeurs que POL, a été republié par POL, mais il y a déjà plus de 10 ans. Et puis il y a un volume qui s'appelle L'Enregistré qui reprend les textes de performance.
Ouais.
C'est Philippe Castelin qui a fait ce travail.
Il y a disque et DVD, je crois.
Oui, il y a un DVD de performance dedans, absolument.
Ouais. Pour les années 2000, tu as choisi de nous parler de la 3e symphonie de Mahler. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Je te laisse en parler un petit peu plus en détail. Quand même.
Oui, mais alors voilà, parce que la 3e symphonie de Mahler, c'est pour moi, enfin, si j'ai dû à un moment donné être dans le syndrome du néophyte, sans doute est-ce que je l'ai été avec ce type de répertoire. Il se trouve qu'il y a des textes de Nietzsche qui sont chantés dedans.
Mm-hmm.
Et sans doute est-ce que c'est parce qu'il y avait du Nietzsche qui traînait dedans que je me suis mis à me plonger dans une symphonie aussi longue. Et c'était l'époque où je jouais donc de la musique baroque à la flûte à bec, où j'étais à plutôt chercher le dépouillement dans l'expérience instrumentale. Et typiquement, c'est une œuvre que j'ai commencé par rejeter parce que elle était pour moi symbole d'emphase, elle était symbole d'une expression qu'on fait des tonnes, de ce côté débordant, enfin, et je trouvais too much, donc vraiment. Et puis, j'ai eu une espèce de révélation un jour, encore une fois, comme c'était l'époque où j'étais entre Nantes, où je faisais mes études, et la Vendée, où sont mes parents. Et donc, je circulais en voiture. Et un jour, j'arrive chez des amis qui habitaient à la Bretonnière, c'est-à-dire dans une ville très, très peu peuplée. Et en plus, ils habitaient vraiment à l'écart du centre-ville. Donc, il fallait traverser un long chemin pour arriver chez eux. Et quand on arrivait, par exemple, l'hiver vers 20h et qu'on coupait les phares de la voiture, on était dans le noir complet. Mmh. Et alors que je mettais la 3e symphonie de Mahler en cassette dans l'autoradio parce que j'avais gagné des places à l'Orchestre National des Pays de la Loire pour aller l'écouter 2 mois plus tard et que je me préparais pour être sûr de pas trop m'ennuyer à ce concert, je me préparais à être familier à ce que j'allais entendre. Et coupant les phares, là, j'ai eu accès à cette musique d'une façon, d'un coup, n'ayant plus du tout de support visuel, je la trouvais beaucoup moins emphatique.
D'accord.
Je la trouvais et même je commençais à entendre des rapports de sonorité, des rapports de pupitre, et même avec une certaine intimité.
Mm-hmm.
Et je commençais à entendre qu'il pouvait même y avoir quelque chose de la détresse à projeter des sons aussi forts. Et donc je commençais à projeter une sorte d'ambivalence d'expression beaucoup plus capiteuse, beaucoup plus intéressante.
Mm-hmm.
Et à la fois, et c'est pour ça que je l'ai mis pour les années 2000, parce que, en fait, moi, j'ai dû beaucoup l'écouter dans les années 97, 18. Mais, d'une certaine façon, je me dis que, enfin, je me projette, enfin, depuis j'ai lu Jonathan Crowley, 24-7 et tout ça, je me dis qu'avec l'an 2000, on est dans un monde qui est éveillé 24/24, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on n'a plus tant que ça accès. Enfin, vous me direz, on pourrait toujours retourner à la Bretonnière et tout ça, mais ce serait tellement organisé, donc ça marcherait.
Tout le monde y serait,
c'est ça. Du coup, il y aurait des phares partout.
Voilà.
Et ben, je me dis que bon, on peut plus faire cette expérience et que d'une certaine façon, on a perdu un rapport au sublime. Alors peut-être que c'est sans doute pas grave parce qu'on a gagné plein d'autres choses, mais c'est pour dire que moi, ce que j'ai pu toucher là de ce répertoire et cette rencontre avec avec cette musique romantique ou post-romantique, c'est quelque chose qui coïncide avec un moment de l'histoire qui me renvoie à une façon d'écouter la musique. Je prends quasiment plus la voiture maintenant, j'ai plus l'occasion d'écouter la musique de cette façon-là, donc c'est révolu. Donc j'écoute Mahler pour d'autres raisons.
Non, moi, quand je l'ai écouté, j'ai eu beaucoup de films, enfin d'images de films, donc j'en avais parlé tout à l'heure, mais notamment le début de Shining, qui m'est revenu à un moment, et aussi Elephant Man. Et c'est étonnant parce que, alors, Elephant Man, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais Shining, je l'ai vu il n'y a quand même pas si longtemps, et je me rends compte que beaucoup de compositeurs de musique de films sont, je pense, beaucoup influencé par les grandes œuvres classiques. Je sais pas si tu ressens le même, j'irais pas copie, mais filiation.
Ouais, après.
Après c'est vague. Là, hein, c'est une question très vague.
Kubrick et Lynch, ils ont pas le même rapport à la musique. Enfin, moi je suis, enfin, de fait, assez attentif à comment la musique vient potentiellement changer les scènes plutôt que simplement dicter une seule émotion. Et je pense que dans le cas de Shining, il se passe pas avec la musique la même chose que avec l'adagio de Barber dans Elephant Man.
Oui.
Sauf que j'ai une fois participé à une expérience de musicothérapie collective. Et le musicothérapeute était très attentif aux images qui pouvaient nous venir au fil des écoutes et nous demander d'imager notre discours. Et il n'y a qu'une seule musique qui, moi, m'a vraiment déclenché des images, c'était de la musique métal.
Ah ouais?
Ouais. Et le musicothérapeute s'en est expliqué en trouvant ça très rationnel, que c'était une musique qui avait une sorte de charge qui, en quelque sorte, forçait l'imaginaire à déclencher des choses. Alors que sur le répertoire symphonique, moi j'ai un rapport très peu visuel. Enfin, j'ai un rapport plus, je sais pas, conceptuel. Enfin, moi je dénoue des concepts en écoutant de la musique, ce type de musique en tout cas. Ouais. Ou là, je parlais des quatuors de Shostakovich tout à l'heure. C'est vrai que le 8e quatuor de Shostakovich, j'aurais pu le mettre parce que c'est une musique sur laquelle je projette beaucoup. Mais là, c'est pas conceptuel du tout. C'est beaucoup plus une sorte de nœud émotionnel qui va finir par être évident et... Ouais.
Et se résoudre au fil du temps ou...
Non,
pas
qui va être heureux d'être un nœud, plutôt. enfin, c'est ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est bien que ce soit noué.
C'est bien,
ouais. Parce que ça tient quand même un nœud. C'est important que les choses restent nouées, parfois.
Ouais.
on veut toujours tout dénouer, mais je sais pas pourquoi.
C'est fou, quoi. Ça, c'est la maman qui nous dit qu'il faut bien ranger. Hein.
Bon, on n'est pas obligé de lui obéir.
C'est vrai.
Et des fois, elle nous aime plus quand on désobéit, en plus.
Pour les années 2010, on va parler donc d'une de tes productions, enfin de plusieurs, je pense. Mais moi, celle qui m'intéressait, c'est celle que tu as fait avec Valérie Philippin.
David Christoffel, donner, c'est donner.
Donner, c'est donner.
Reprendre, c'est voler.
Reprendre, c'est voler.
S'engager, c'est donner.
S'engager,
c'est
donner. Prêter, c'est pas tout à fait
donner.
Emprunter, c'est voler. Prendre,
c'est
prendre.
Demander, c'est bizarre. Exiger, c'est bizarre. Supposer, c'est comme prêter.
Supposer, c'est comme prêter.
Espérer, c'est perdre.
Espérer, c'est perdre.
C'est bizarre.
Déménager,
c'est
donner.
Revenir, c'est voler.
Revenir, c'est voler.
Vouloir,
c'est donner.
C'est donner. Gagner,
gagner,
c'est voler. Progresser,
c'est voler.
C'est voler. Accomplir,
accomplir,
c'est donner. C'est donner. C'est donner.
Supposer,
c'est voler.
C'est perdre.
S'engager,
rembourser,
c'est voler.
C'est pas
prêter,
tout à fait donner.
C'est pas tout à fait donner.
Emprunter, c'est
voler.
Donner.
Prendre,
c'est bizarre.
C'est
supposer,
c'est
bizarre.
C'est perdre. Rembourser,
revenir, c'est donner.
C'est bizarre.
Rembourser,
déménager,
c'est progresser.
Revenir, vouloir,
accomplir,
gagner,
c'est reculer.
Progresser, c'est voler.
La tectonique des phrases.
La tectonique des phrases, voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bluffant.
Ouais.
D'une part, énormément de choses qui m'ont plu. Justement, j'en avais parlé. Donc, l'utilisation des syllabes, l'utilisation de la question-réponse, de l'écho. Entre les deux voix, et je me suis posé énormément de questions sur la préparation d'un tel exercice, parce que il faut être comment dire, quand je l'ai écouté, je me suis dit, il y a énormément d'impro, mais c'est pas possible que ce soit improvisé, tellement c'est bien organisé, tellement la réponse arrive en même temps que la question, tellement l'écho arrive, et je me suis vraiment posé la question du comment vous préparez ça à deux.
Alors, en fait, c'était assez simple. En fait, d'abord, on a pris le temps d'expliciter ce qui nous relie et ce qui nous différencie en même temps. Valérie Philippin, on s'est connus au moment où on réalisait avec Cataline Molnar un film hommage à Christophe Tarkos, parce que Valérie Philippin est lectrice de Tarkos. Et puis, on a en commun d'avoir un goût pour la poésie qui... se sert de certains paramètres musicaux pour rebondir, pour se renouveler, ou pour se projeter, se prolonger, ou jouer avec la durée, voilà. Mais là où on est différent, c'est que pour elle, j'ai l'impression, il y a une sorte de continuité entre, et dans son parcours, enfin, entre produire une partition, enfin, exécuter un poème partition de Byron Haitzig, de poésie sonore, et dire une pièce vraiment musicale, disons, de Georges Apergis. Donc, elle assume une sorte d'alignement entre des compositeurs qui vont vers la voix semi-parlée et de la poésie sonore qui tend vers le chanter. Là où moi, je suis plus à vouloir tendre la frontière pour jouer de sa tension et donc de pas chercher la résolution. Et donc ça nous intéressait de jouer ensemble avec ça et de prendre chacun nos matériaux et de se les faire se rencontrer. Donc moi je venais avec des poèmes, avec des petites choses que j'avais composées pour le componium par exemple, avec des petits ustensiles musicaux ou des poèmes plus ou moins sonore, c'est-à-dire travaillant plus ou moins avec le jeu métrique, parce que c'est surtout par la métrique que ma poésie rencontre la musique. Et Valérie venait aussi avec ses poèmes les plus musicaux, qui sont des choses qu'elle avait de fait jamais eu l'occasion de véritablement produire en public. Donc le fait de cette rencontre et de se mettre ensemble a permis aussi d'ouvrir un répertoire qu'on avait chacun en réserve, mais qui n'avait jamais été forcément mis devant de la scène ou articulé de cette façon-là. Et on a monté un certain nombre en jalons de tout ça. C'est pour ça aussi que ça s'appelle la tectonique des phrases. C'est qu'on a monté les petites séquences les unes à la suite des autres pour qu'elles finissent par arriver à s'emboîter et à faire une forme unique qui dure une heure, puisque c'était une sorte de petit récital radiophonique, puisque c'était retransmis en direct sur Radio Campus Bordeaux, et qui dure une heure à peu près.
Et c'était entre guillemets, enfin, si je me souviens bien, il y avait des petits segments quand même qui étaient.
C'est vraiment très segmenté.
C'est très segmenté. Et il y a la partie qui démarre en donner ses données, où moi j'ai vraiment adoré le ping-pong qu'il y a entre vous deux.
Alors ça, typiquement, voilà, c'est un poème que j'apporte, que moi j'ai jamais publié parce que je le trouve justement un peu trop rythmique ou trop sonore et tout ça. Et c'est sur la base de ces idées de comment en faire une forme musicale qu'on en est arrivé à ça. Et de fait, moi, ça m'a aussi révélé une sorte de virtuosité dans la voix parlée à force de faire et de la radio et des opéras parlés, mais qui là prenait une espèce de contrepoint musical avec la présence de Valérie et qui fait que ça s'emboîte.
Et dernier point justement sur la technique et sur l'organisation d'une telle performance de cette performance, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes chacun dans votre bulle, mais que c'est tellement bien maîtré que c'est synchronisé, ou est-ce que vous avez des points de repère où vous vous retrouvez dans la séquence justement, ou est-ce que la séquence elle déroule pour chacun et c'est l'ensemble qui fait le résultat?
Non, les points de flottement sont calés.
D'accord.
Donc, en fait, il y a des flottements, mais ils sont très localisés.
Oui.
Donc, on sait où est-ce qu'on flotte, on sait où est-ce qu'on se reprend, et voilà. Ouais. Enfin, sans compter qu'il y a aussi des petits passages solo.
Après, il y a certaines séquences où t'es tout seul ou elle est toute seule aussi. Donc, mais c'était surtout sur les séquences synchronisées que je m'étais posé la question.
Mais ça dépend desquelles. Parce qu'il y en a qui sont effectivement carrément partitionnées. Donc, on est calé sur le papier et donc on se cale en permanence pendant qu'on l'exécute.
Ouais.
D'autres qui travaillent avec le flottement où là, effectivement, il y a une part d'improvisation dans la distribution dans le temps de chacune des voix.
D'accord. Et quand tu dis que c'est écrit, c'est quand tu dis que c'est partitionné, il y a une vraie partition.
Partition souvent verbale.
Ouais, d'accord.
Avec à chaque fois des inventions graphiques spécifiques à chaque poème.
D'accord. D'accord. Ouais. C'est clair.
Super.
Mais par contre, j'aimerais bien voir les interprétations graphiques.
Ça va falloir qu'on les publie un jour.
Ça doit être rigolo, quand même.
Sans compter que c'est aussi un matériel que dont pourraient saisir d'autres interprètes et il en ressortirait encore autre chose qui pourrait être intéressant.
Et de ton côté, est-ce qu'il y aurait une œuvre récente dont tu voudrais nous parler, justement?
Une de tes œuvres récentes? Une œuvre récente, je me suis lancé dans des tapisseries, c'est-à-dire dans l'idée que texte et musique pourraient avoir un peu la même contrainte, notamment de durée. Donc j'ai fait un certain nombre de tapisseries d'une dizaine de minutes chacune qui ont plus ou moins un thème, qui intègrent plus ou moins des bandes ou des créations sonores préenregistrées. Mais dans les œuvres récentes, comme je suis beaucoup plus habité par les œuvres à venir, je les ai pas forcément en peut-être.
Mais moi, il y en a une qui m'a plu, oui. Et qui a été publiée assez récemment. C'est ce que tu as fait pour Par Oui Dire, donc la première qui est fait sur une chaîne belge. La première, et qui parle de Doodle.
Alors, ouais. Tu m'apprends que la RTBF l'a diffusé.
Ça a été diffusé fin décembre.
En fait, ouais. D'accord. Ouais. Ça a été produit dans le cadre de l'émission Le Labo de Espace 2 en Suisse.
D'accord.
Donc, en fait, oui, c'est une production suisse que j'ai créé il y a un an. Doodle voilà. M'a tué. Oui, voilà. Donc, enfin, un peu moins d'un an. Ouais. Ouais. Et donc, oui, bah, je suis content d'apprendre que c'est passé en Belgique parce qu'en fait, il y a un partenariat entre Par Oui Dire et Le Labo. Oui. Donc, il y a des œuvres qui régulièrement passent. Alors, ça, c'est une espèce de point d'aboutissement d'un travail que, au tout départ, j'avais lancé sur France Musique en 2012. Mm-hmm. J'avais, pour la matinale de l'été, fait un feuilleton, une fiction, mm-hmm. mais avec les gestes du documentaire.
D'accord.
Donc j'avais inventé une histoire, un polar, ça s'appelait Meurtre au conservatoire, qui était rempli d'interviews faites dans des conditions comme on est là, par mm-hmm. exemple, et essentiellement au conservatoire. Et après ça, j'avais essayé de reconstituer d'autres situations, notamment j'avais fait pour France Culture le making-of de la reconstitution du congrès des faux chercheurs en sonorité disparue, qui était volontairement D'accord. mon titre le plus long de toute oui. ma production. et qui là était intégralement fictionnel à partir de scénettes qui avaient un côté plus vrai que nature, au sens où toutes les situations qui étaient pointé par la fiction, étaient des situations réelles de dialogue de sourds dans l'université ou à côté des colloques. Mmh. Et en fait, j'avais pas encore, et donc j'ai pu le faire grâce au labo de Espace 2, j'avais pas encore fait un docu-fiction qui relève de l'ordre du switch. Mmh. C'est-à-dire de commencer comme si c'était un documentaire mmh. et de basculer dans la fiction. Et donc, mais une fiction qui documente, enfin qui continue à quand même
qui s'appuie sur
être documentaire et à documenter des situations encore plus, de façon encore plus pertinente peut-être, du fait d'être une fiction. Voilà. Et puis en plus, comme c'est Doodle, on se perd dans les strates temporelles.
Ah, bah là, il y a de quoi. Ça dure une heure, mais ça pourrait durer 5 heures.
Ah bah oui.
Sans problème.
Oui, parce qu'on est mangé.
Mais tu l'as bien expliqué, ça part comme ça. Ça part vraiment comme une explication du à quoi sert Doodle, comment c'est, etc., etc. Et ça dérive sur la personne qui est en retard pour sa réunion Doodle, qui a organisé un Doodle et puis qui va finir. Faudra faire un autre Doodle parce qu'il n'y avait pas assez de monde au Doodle. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et
c'est une machine à se mordre la queue.
Bah oui.
Ouais. Mais alors que c'est quand même un outil censé nous tirer vers l'efficacité. Mais c'est comme tous ces outils qui en fait ajoutent de la complexité là où tout en prétendant résoudre plein de problèmes.
Comment tu t'es rendu compte de ce point-là? Tu vas en entreprise pour voir comment ça se passe?
Non, mais je suis pris dans des jeux de tension qui sont en permanence des enjeux d'entreprise. C'est-à-dire, ça m'arrive de participer à des réunions. Je suis abonné à 7 ou 8 groupes WhatsApp de différentes entreprises dans lesquelles je suis impliqué d'une manière ou d'une autre, et qui eux-mêmes sont imbibés des problématiques de jeux de renvoi de responsabilité,
de patates chaudes,
de bouc émissaire tournant, ce jeu de casse-tête et de massacre.
On a fait un joli tour quand même.
Bah ouais.
Ouais.
Ouais, on en a dit des choses.
Bah ouais. Alors, on peut te retrouver évidemment sur Twitter.
Oui.
On peut te retrouver aussi. Enfin, toute ton actualité, elle est sur DCDB.
DCDB.fr. Donc, ça veut dire David Christophe Database.
Ouais. Où on retrouve beaucoup de tes œuvres en audio, en vidéo. Donc là, je vais diffuser des extraits, mais l'intégralité, évidemment, elle est disponible sur ton site. Et on se dit à très bientôt.
Avec plaisir.
Et on va remercier quand même le Wine Therapy qui nous a accueillis pour l'interview.
Je connaissais pas, c'est un endroit très bien. Ouais.
Alors moi je connaissais, mais effectivement c'est très bien.
T'es déjà venu plein de fois, toi.
Non, pas plein de fois, mais voilà. C'est très bien. Merci beaucoup David et à très bientôt.
À bientôt.
On se retrouve sur la suite de tes aventures sonores ou musicales.
Sonores et radiophoniques.
Et radiophoniques. Merci beaucoup David.
Merci.
Avec ses interlocuteurs.
Si je donne du mien, je mériterai une récompense. Si je mérite une récompense, je serai très fier.
Si je suis très fier, je vais avoir des problèmes. Si j'ai des problèmes, je pourrai me plaindre. Si je me plains, j'aurai droit à votre attention. Si j'ai votre attention, je serai content. Si je suis content, je lirai votre livre. Si je lis votre livre, je ne le dirai à personne. Si je ne le dis à personne, c'est que je sais tenir un secret. Si je sais tenir un secret, je serai une belle personne. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi et comment je suis quelqu'un de très original, il faut que vous lisiez mon livre. Si vous ne lisez pas mon livre, vous ne saurez pas pourquoi et comment je suis quelqu'un de très original. Si vous ne lisez pas mon livre pour faire exprès de ne pas savoir toute l'originalité personnelle à laquelle j'ai beaucoup travaillé, alors c'est peut-être que vous avez mieux à faire. Peut-être que vous connaissez déjà un peu trop de gens qui misent sur leurs originalités personnelles respectives. Peut-être que vous voudriez que j'apprenne à faire moins l'original, peut-être qu'alors vous lirez mon livre, peut-être qu'enfin j'arrêterai de vous demander, peut-être aussi que... Si on pouvait, si on faisait en sorte, si on s'y mettait vraiment, si on ne s'arrêtait pas à, s'il fallait aider tous ceux, si on arrivait ne serait-ce, si je lui disais comment on, s'il savait tout ce que je... Si j'avais pu un peu lui, si j'en étais encore à, si j'espérais ne serait-ce que, si on commence à aller par, si c'est pas une raison, s'il voulait vraiment y arriver, si je voulais, si je comprends bien, c'est toujours, si tout le monde pouvait, si seulement chacun faisait de son, si ça doit vous prendre tout le temps, comme si vous n'aviez rien entendu. Si tu te souviens bien, si on est concerté, on peut toujours, si ça vous ennuie de devoir, si c'est comme ça que vous prenez, si vous voulez aller par là. Si ça ne tenait qu'à vous, si vous deviez à tout prix, si ça vous déconcentre, si on vous demande d'avoir un peu plus, pas comme si vous n'aviez rien entendu. Si vous avez encore remarqué, si c'est parce que ça vous fait rire, si ça peut vous donner un peu plus d'élan, si vous en avez marre, si vous saviez ce que d'autres subissent, si je comprends bien, si tout le monde réagissait comme ça, si vous pensez que quand même pas, si c'est tellement important pour vous, si vous deviez trop mal le... Si ça vous est tellement difficile de, si ça devient même un peu partout, si vous trouvez ça un peu trop, surtout si ça finit par se contredire, mais quand je pourrais terminer, est-ce que...